Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on retrouve les menstruels, un collectif de correspondance à voix multiples, des missives de femmes éparpillées en France et ailleurs. Pour chaque épisode, un thème est choisi pour composer les échanges. Parler ou se taire ? Ce mois-ci, les menstruels interrogent les silences qu'il faut briser, mais aussi ceux qu'il faut savoir garder. Qu'en dire ? Comment ? Quels mots saisir lorsque ça déborde ?
Est-ce que tu veux enregistrer ?
Par contre, j'avais un cadeau pour mes premières règles. De ma mère, j'avais fait un soin élastique.
Tu te rends compte que tu viens de lancer le générique ?
J'écris les yeux fermés.
J'écris les yeux fermés.
Pas besoin des lignes.
Et je sens le froid et les ombres qui m'entourent.
Ceux qui sont partis.
Dans un rêve, tout se mélangeait.
Son rythme ne faiblit pas.
Phrase quelconque, pensée quelconque.
Perdant nos sommeils et nos fourmis.
À se donner le tournis.
Elle est là.
Faire renaître un courant de traverse.
Nous rappelle à la vie.
Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans le lit.
Les menstruels. Correspondance éclatée à X voix.
Tic, tic.
Parler ou se taire ? Chères toutes, alors que je termine cette émission, je pense à toutes les paroles que j'aurais voulu mettre ici. Il y en a tant que ça déborde. Alors je vous laisse avec celles que nous avons déjà attrapées. Ah, et je voulais vous dire merci aussi. Pour les paroles qu'on se dépose et l'écoute qu'on se donne.
Je me rappelle, j'étais à côté de mon père pendant qu'il conduisait une bagnole comme ça, tu vois. Et c'était après une petite tentative de suicide que j'avais fait, qui était un peu bidon. Hein, je m'étais ouvert les veines. Donc, en général, on meurt rarement de s'être ouvert les veines, à moins de les mettre dans l'eau chaude, de faire des trucs comme ça. Mais en fait, c'était plutôt un appel au secours, quoi. Hein. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, il faut maintenant que je dise pourquoi j'ai fait cette connerie à mon père. Donc, j'étais dans sa bagnole. Et, papa, j'ai quelque chose à te dire. Et ben, il dit, bon, ben, vas-y, parle. Il ne savait pas de quoi j'allais parler. Je lui dis, papa, je vais te dire une chose, c'est que j'aime les garçons. Silence complet de mon père. Pas une réponse. Je reprends mon courage et je lui dis, papa, j'ai quelque chose à te dire. J'aime les garçons. Pas de réponse. Troisième tentative. Mon père était un type honnête, hein. Faut se mettre à sa place. Il avait une formation où, en général, on ne parlait pas de sexualité. Et il était catho. Donc, il était très gêné parce que je lui avais posé ce que je venais de lui réparer. Et il a eu quand même l'honnêteté de répondre. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Je suis gêné. Mais au moins, il a dit les faits. Il ne m'a pas rejeté, tu vois. Il a dit, ça me dérange. Ça me dérange. Mais j'espère que ça passera, parce que t'es adolescent, ça peut peut-être passer. Lui voyez que ça allait passer comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Bon, mais il a dit, je préférerais que tu ne m'en parles plus. Mais il ne m'a pas rejeté. Il m'a dit qu'il était gêné par ça et qu'il espérait que ça changerait et qu'il préférait que j'en parle plus. Bon, au moins c'est clair. Quand je me suis retrouvé devant ma mère pour la même raison, ma mère était bigote, hein, complètement bigote. Hein, c'était même pas de la réflexion, c'était le papa dit c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je dis à maman, ben voilà, j'aime les garçons. Ma mère m'a répondu, là c'est plus du tout qu'elle espérait que ça changerait. Elle m'a direct répondu, je ne penserais pas qu'un jour je mépriserais mon fils. Voilà, et tout, no comment. C'est pas le même genre de réponse, hein. Il y en a un qui a du mal à l'encaisser, mais qui ne te condamne pas. Et l'autre qui te répond, je ne pensais pas qu'un jour je mépriserais mon fils. Ok. Bon, ben voilà, après j'en ai plus parlé avec ma mère, évidemment.
Et tu te sentais soulagé après leur avoir dit ?
Dans une certaine mesure, par rapport à l'époque, oui. Je préférais avoir fait mon... comment on dit ça, le coming out, parce que je le faisais pour moi, je le faisais pas pour eux. Je le faisais pour assumer ce que j'étais, en fait. Tu vois ? Donc, en fait, le simple fait de pouvoir le dire, ça me libérait quelque part. Je l'ai dit, et je le reconnais pour moi-même, et je vis à ma façon, point barre. Mais, quand même, je souffrais en même temps que c'était pas une vraie acceptation de ma famille, quoi.
Et tu croyais quand même encore en Dieu
à ce moment-là, oui. Mais à partir du moment que j'ai compris que qu'on ne m'accepterait pas, parce que c'était considéré comme un péché grave, hein, et ben j'ai évolué très vite. Je me suis rendu compte en réfléchissant que tous ces gens-là, ben c'était des faux culs, quoi. Voilà. J'ai préparé mon bac donc avec un petit peu de retard puisque j'avais eu cette aventure d'être en maison de repos. Et quand j'ai eu mon bac, après je suis allé à la fac de Nancy dans un premier temps. Et j'ai choisi, c'est peut-être pas par hasard, j'ai choisi psychophilo-sociaux, l'orientation. Et c'était en 69 quand je suis arrivé à la fac. Et c'était baigné par les idées gauchistes à l'époque. C'était carrément tout de suite après mai 68. Donc, automatiquement, ça m'a ouvert l'esprit parce que, justement, la plupart des étudiants de l'université de Nancy étaient, comme partout ailleurs en France, étaient en pleine remise en question de toutes les valeurs morales, politiques, religieuses, tout ça. Donc, ça m'a forcément ouvert les yeux. Ça n'a pas été sans problème, sans remise en question de ma part, sans doute... sur ce qu'on me disait, mais bien sûr, ça ne s'est pas fait en deux jours. Je ne me suis pas senti bien en deux jours, évidemment. Mais ça, c'est sûr. Mais par contre, j'ai eu cette chance d'être dans une période où même s'il y avait beaucoup de conneries de dites et de faites par beaucoup de gauchistes, c'était quand même une période où on remettait en question les valeurs. Donc les valeurs morales aussi, le système éducatif qu'on avait reçu, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup aidé quand même. Je crois que j'ai dit l'essentiel.
Toi, tu l'as fait, le stage ? T'as commencé par le faire ?
Oui, moi j'ai rencontré l'autodéfense en faisant un stage.
Et ça t'avait fait quoi ? T'avais ressenti quand ?
Moi, ça a été un moment hyper fort dans ma vie. C'était il y a 4 ans maintenant. Et c'est quand j'étais à la fac et j'avais vu qu'il y avait un atelier d'autodéfense gratuit pour les étudiantes auxquelles on pouvait s'inscrire. Et du coup, avec une copine, on s'est dit, on y va. On est hyper curieuse, ça a l'air super. Je m'en souviens encore bien. Je suis ressortie hyper forte, hyper bien dans mon corps, dans ma tête. Je pense que c'était un moment fort pour moi parce que... c'était un grand moment de déculpabilisation où on se rend compte que on est plusieurs à vivre des agressions, des violences. Et c'est assez ouf parce que je pense des espaces de solidarité, j'en avais plein dans ma vie à ce moment-là avec des amis, des proches. Mais là, avoir un moment de solidarité avec des personnes qu'on connaît pas, mais avec qui on a énormément de vécu en commun, ça pour moi, c'était un truc hyper fort. De vraiment avoir un peu ce huis clos où on peut partager des histoires, où notre parole elle est entendue, elle est légitime, et c'était aussi beaucoup grâce au cadre qui était posé par l'animatrice de en fait accueillir la parole, de aussi nous dire que tout ce qui était proposé c'était des propositions, que c'était pas obligatoire, que en fait certaines choses qui allaient être proposées ça allait nous parler, d'autres non. Enfin je sais pas, il y avait un truc qui là-dedans moi ça a été en tout cas ça m'a parlé direct. Et aussi d'être dans le corps, je pense, ça m'a fait du bien. Et puis en plus, moi, à ce moment-là, je faisais un master en études de genre. Du coup, je sais pas, je passais mes semaines, mes journées à lire des articles et des thèses sur les violences. d'être tout le temps plongée là-dedans, je pense que c'était aussi des périodes qui parfois étaient lourdes. Et heureusement, on était plein et j'avais plein de super copines, donc on pouvait en parler. Mais de là, de voilà, être dans le corps et être dans un moment où on peut parler de situations qui nous ont pas plu, de revenir sur des trucs où en fait on se dit « Ah, mais là, j'aurais dû réagir comme ça. Là, en fait, je me suis dégonflée, j'ai pas fait ça, machin, j'ai été nulle. » Et en fait, d'avoir un espace où on peut revenir sur ça, on peut s'entraîner... Ou en fait dans un endroit où on est en mixité choisie, donc il n'y a pas d'hommes, et ça fait du bien aussi. Voilà, et quand même, pour la petite histoire, moi, quelques mois après, j'ai quitté un homme qui était violent avec moi. Et c'était pas directement après, donc j'ai pas envie de dire, voilà, ce jour-là j'ai eu un déclic et je l'ai appelé, parce que c'est pas vrai. Mais je pense que ça a quand même joué, forcément, dans ma légitimité et dans le fait que j'avais le droit de dire non, j'avais le droit de mettre fin à des violences que je vivais. Voilà. Moi, je dirais que l'objectif principal de faire face, c'est de diffuser l'autodéfense à des personnes qui n'auraient pas accès dans leur vie, parce qu'en fait, l'autodéfense... ça vient quand même un petit peu de milieux assez militants, féministes, autodéfense féministe. Il y a plein de personnes qui savent pas ce que c'est. Et même moi, j'ai l'impression dans mon entourage, dans des personnes qui sont sensibilisées au féminisme, il y en a plein qui n'ont jamais fait de stage, qui savent pas vraiment ce que c'est. À faire face, il y avait plutôt cette idée d'aller au-delà de ces cercles-là, avec l'idée que en fait, tout le monde devrait avoir accès à ça, que ça peut parler à tout le monde, qu'il n'y a aucun prérequis pour y participer. Et donc, l'asso, elle travaille beaucoup... en partenariat avec des structures qui ont des publics. Donc, par exemple, ça peut être des entreprises où il y a des salariés, ça peut être aussi des collèges, des lycées, des facs, partout. Mais du coup, comment ça se passe? Eh bien, il y a une animatrice qui est là un petit peu pour poser le cadre de l'atelier. Et l'idée, c'est que c'est en autodéfense, on alterne entre des moments de discussion... des moments de transmission de techniques physiques, donc plutôt dans le corps, mais aussi des moments de transmission de techniques verbales, où du coup là ça va plus être voilà, s'entraîner à faire de l'autodéfense verbale, avec des mises en situation soit réelles, soit fictives, en fonction de ce que les personnes ont besoin de faire. Dans un stage de 2 jours, il va y avoir des moments un petit peu où on peut être dans notre tête, des moments où on peut réfléchir à des techniques, à des moments qui se sont passés qui nous ont pas plu, mais aussi beaucoup de moments collectifs, en petits groupes, en grands groupes, des moments aussi de jeu pour se détendre, parce que évidemment c'est brassant de parler de violence et de se défendre pendant 2 jours complets. Voilà, en gros.
Tu dis que tu l'as fait pas mal avec les ados.
Ouais.
Du coup, et est-ce que tu vois une manière de recevoir qui est différente par rapport aux adultes?
Oui, complètement. C'est pas du tout la même chose, j'ai l'impression, les stages avec les ados et les adultes. Forcément, déjà parce qu'on parle pas des violences de la même manière à des personnes que de 15 ans et des personnes de tout âge adultes. Et moi, quand même, ce que je vois avec les ados, c'est que... C'est quand même nous, quand on intervient, c'est au collège. Du coup, c'est quand même un espace où il y a un gros rapport de hiérarchie avec les adultes. Et c'est vraiment... t'es élève et t'écoutes les adultes et t'obéis à des règles. Et puis, c'est très cadré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça, le collège. Et en fait, d'avoir un moment, de créer un espace en mixité choisie à cet âge-là, dans l'enceinte du collège, et où t'as le droit de dire ce que tu veux... Et où ça va être légitime et ça va être pris en compte. Et ça, moi, je trouve que c'est déjà une réussite en soi. Et aussi, souvent, j'ai l'impression, dans les stages avec les ados, c'est aussi des âges où il peut y avoir des groupes et tout. Enfin, c'est des moments où il y a des personnes plus timides que d'autres, il y a des effets de groupe, etc. Moi, je trouve ça hyper balèze, quoi, d'avoir 13-14 ans, d'être en quatrième et d'oser raconter une histoire... devant des personnes que tu vas recroiser dans les couloirs après, qui sont pas forcément tes copines, et d'oser le dire, et de te dire « Ok, dans ce cadre-là, j'ai le droit. » C'est quand même ouf, quoi. Et ça, c'est trop bien.
Chères toutes,
J'ai dû garder le silence. Bon, des fois, ça me fait parler comme un clown. Le silence, ça permet peut-être de calmer la faim ou de savoir mieux choisir ce qu'on mange, ce qu'on ouvre. Mais ça n'est pas très silencieux. Et j'ai appris un truc quand même. C'est qu'il peut être bruyant.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Je reçois un coup de téléphone d'un garçon à qui j'ai pas parlé depuis une quinzaine d'années. C'est un ami du collège, puis du lycée. Il introduit son appel par un message qui m'explique qu'il aimerait discuter de quelque chose avec moi. Je trouve ça bizarre au départ. Je me demande même s'il va pas m'accuser de quelque chose. Je réfléchis à ce que j'aurais pu faire contre lui, mais je vois pas. On était dans la même classe au collège, en troisième, puis on est allé dans deux lycées différents. Mais on continuait de faire des soirées régulièrement dans nos villages. Bref, il m'appelle. Et il passe pas par quatre chemins et me dit « Voilà, écoute, faut que je te raconte quelque chose. Il y a plus de 15 ans, on avait à peu près 17 ou 18 ans. Il y a une soirée chez moi, où tu étais invité donc, avec tous les copains, la bande de l'époque. Et pendant ton sommeil, j'ai abusé de toi. » Voilà, je crois qu'il emploie le mot abusé. Je me rappelle pas très bien, peut-être attouchement ou abus, je ne sais plus. J'ai abusé de toi pendant ton sommeil. C'était des soirées alcoolisées. Et je m'étais endormie sur son canapé. Je devais être vraiment dans le coma. Parce que je me rappelle de rien. Tout ce qu'il me raconte, ça m'a échappé. Je savais pas quoi dire, j'écoutais. Et puis je lui ai demandé des détails. Ça veut dire quoi, abuser? Ça veut dire quoi, toucher? T'as mis des doigts, t'as fait quoi? Il a dit ploter. Il a utilisé le mot sein, entre jambes, entre les jambes.
Je me souviens pas très bien. Il m'aurait touchée pendant mon sommeil, les parties intimes. Et il ajoutait que le lendemain matin, au réveil, je lui aurais demandé s'il s'était passé quelque chose entre nous. Il aurait répondu que non, qu'il avait dormi. Ça voudrait dire que j'ai été à demi consciente, que j'ai peut-être ressenti quelque chose, vu des images, dans mon coma un peu alcoolique. Et tout ça, je m'en rappelle pas. Et puis il me dit que il m'appelle pour me demander pardon, pour obtenir mon pardon, il dit qu'il est en train de faire une espèce de un travail psychologique énergétique avec un coach et qu'ils ont un exercice qui est de demander pardon à quelqu'un et que avec sa famille ça se passerait bien et puis qu'il a pensé à moi et que voilà, il venait me demander pardon. Je sais pas très bien comment le prendre. Je lui dis ok, merci de m'avoir rappelé. Et puis là, écoute, je suis un peu sous le choc, j'ai besoin de comprendre, de digérer, et puis peut-être qu'on se rappellera. Et puis je raccroche. Les jours suivants, c'est un peu confus parce que je sais pas quoi faire de cette information. J'étais pas au courant, et puis d'un coup, j'ai cette information, je sais qu'il s'est passé ça ce soir-là. Et c'est comme s'il y avait une... C'est comme s'il m'avait ploté une deuxième fois, qu'il m'avait agressé une deuxième fois. Alors je me demande, est-ce qu'il aurait dû se taire à jamais, ou est-ce qu'il a bien fait de me le dire? En tout cas, ça ne me laisse pas indifférente, et j'ai une rage en moi qui augmente. Je suis en colère. Et puis parce qu'au fond, je me doutais qu'il s'était passé des choses de ce genre. En tout cas, j'espère qu'il se sent libéré. Moi, je ne l'ai jamais plus rappelé. Je lui donnerai jamais mon pardon, ça c'est sûr. Parce qu'à l'image de ce qu'il a fait ce soir-là, c'est un acte égoïste de m'appeler ce jour-là, sans se préoccuper de savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, de refiler la patate chaude. Et j'en fais quoi, moi ? Pour moi, ce jour-là, 15 ans après, quand il m'appelle, j'ai l'impression qu'il m'agresse une seconde fois.
Le féminisme est un mouvement politique, intimement instrumentalisé. Et tu ne seras ni sociale justice guerrière ni caution féministe pour ligne budgétaire. Tu ne seras pas l'amante bénévole, pas là pour écouter, éduquer. Ton cri est un essai écrit par et pour celles et ceux nassés de la guerre. Tu ne prétends pas apaiser, arranger, réparer, expliquer, venger, désespérer. Tu ne pardonnes pas. Sur le haut de leur nuque, baisse ton pouce, ton index majeur. Ta vue est libérée, parole entendue, l'horizon clarifié. À un présent, tout va bien. Alors pourquoi tu parles ? La parole ne libère personne parce que l'écoute est sourde. La presse continue de s'étonner. Cinéma, théâtre, bande dessinée, église organisée, natation synchronisée. Des ports dans toutes les sciences. Quoi ? Les journalistes aussi et même les avocats, non, ne touchez pas au patinage artistique. Catégoriser, dire ce n'est pas système si c'est propre à un secteur. Oui, voilà, un secteur, une activité, une classe sociale. Pas nous, c'est pas nous, c'est le milieu, la violence, le dénominateur commun des violences. Attends, mais la violence serait partout, partout, partout. On savait pas. T'as rien dit, on savait pas. T'avais dit, on savait pas. T'as pas parlé, t'as parlé. Pourquoi t'as parlé ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi tu parles ? En l'an 2019, dans la part d'un écran médiatique, une actrice dénonce les violences dont elle a été victime quand elle était enfant. Elle serre la commissure du verbe, tu suis ses lèvres comme si ses mots à elle sortaient de ta mâchoire à toi. Tu l'entends répondre à la question posée tout le temps, à toutes, en tout premier, comme si c'était la priorité de savoir. Aujourd'hui, vous avez décidé de parler des faits remontant à plus de 17 ans, dites-nous. Pourquoi parler maintenant ? Oui, pourquoi ? Pourquoi parler maintenant ? Tu n'entends que le début de la question. Pourquoi parler ? En creux, la question, c'est pourquoi tu ne continues pas de te taire ? Pourquoi il faut te justifier d'être victime sans arrêt de la maison à la maison d'arrêt ? Bonjour la police, je voudrais déposer plainte pour le vol de ma télé. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah, j'étais là dans mon peignoir avec mon bol de céréales, devant le match et pouf, cambriolé la télé. Oui, je vois. Quel genre d'émission vous regardiez ? Je vous ai dit un match de foot, pourquoi ? Vous n'aviez pas dit que c'était du foot. Vous ne portiez qu'un peignoir. Qu'est-ce que ça a à voir ? Répondez aux questions. Quelle heure était-il ? En journée, vous êtes chez vous ? Vous travaillez ? En peignoir ? Pourquoi avoir attendu 20 ans après la remontée de l'OM en première division pour déclarer les faits ? Vous avez une assurance ? Vous avez des témoins ? Vous avez un avocat ? Vous aviez 12 ans. Vous parlez maintenant. Pourquoi maintenant ? Tu n'as jamais cessé de parler. La victime coupable de dénoncer au centre du tribunal télévisé. Comme si c'était toi qui le mettais en prison plutôt que ses actes à lui. Comme si c'était facile la décision de dire la vérité, de l'écrire et de la répéter. Écoute bien collective conscience, tu veux savoir ce qui est facile, c'est voler une enfance. Tu veux savoir ce qui est grave, c'est que tout le monde le sait et qu'il faut chialer aux institutions espérant la restauration. Ni les faits ni leurs conséquences ne s'effaceront, mais tu vas expliquer. À quoi ça sert remuer le passé, à quoi ça sert parler ? Parce que si tu ne peux qu'observer les faits, bouche cousue, main liée, l'impuissance te ronge et tu rouilles au-dedans, c'est l'hémorragie interne. Mais si tu parles, alors tu rends les coups, tu réponds, tu ne laisses rien passer. Tu dis ça là, c'est non. Tu prends l'ascendant sur le monstre et c'est toi la puissance. C'est pour ça qu'il faut et c'est la première étape. Ça servira à arrêter de vomir tes bêta bloquants avant chaque repas de Noël, parce que tu n'iras plus à Noël. On te reprochera de trancher les liens et tu sais quoi ? C'est bien. Continue comme ça, au sécateur, ouais. Il faut beaucoup couper les rosiers pour que puissent éclore les fleurs. Crier va créer du vide autour de toi, fais le tri, augmente le désordre dans le système et réduis ton entropie, garde peu d'amis. Continue la thérapie aussi. Si. Continue les thérapies, tellement il y en a, c'est une quête plus prenante que l'amour. Les gens normales travaillent à temps complet et elles apprennent la poterie en soirée. Toi, chaque mardi après-midi, ta psy. Passage un peu plus loin. Malgré le revers de la parole. Mylène Tournier. Les mots qu'on prononce, ils restent dans l'univers quelque part à un endroit du temps, comme ça grippe dans le ciel les nuages. Dis Mylène, à quoi ça sert écrire des poèmes dans l'orage ? Qui essuie les gouttes des mots urticants ? Parler, oui, mais sans espérer réparation, la guérison ne viendra pas des mains qui ont porté les coups, ni de celles qui ont choisi de rester croisées, de ne pas protéger la victime. Ne pas prendre parti, c'est défendre le crime. Dans le conflit, pas de neutre possible. Le silence mène au pire. Feindre l'ignorance, se taire, c'est agir, c'est décider de ne rien faire. Les tensions interpersonnelles au sein d'un groupe concernent tout le groupe. Relis et répète. Les tensions interpersonnelles au sein d'un groupe concernent tout le groupe. Parler, oui, mais sans attendre d'excuses, car le groupe fera le choix du plus fort. Le groupe se rangera aux côtés de l'agresseur. Aux victimes, l'ostracisation. Toujours mieux seul que mal entouré. Parler, oui, mais si tu parles, tu pars. C'était deux morceaux du livre d'Alex Tamesilia. Les féministes t'encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir transpédéguine.
Tic, tic.
It's been in my head for so long after. They told me these words I can't remember. It keeps coming on. They kept beating on my face. If they keep telling I'm a liar, baby, it's not my fault. I built these layers. I can meet myself. What about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Who gave you the right to run the rules? Who gave you the right to run the rules? What's wrong with you? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me, baby, baby, my flesh to gel my soul. I just feel like I can fall. My muscles not sharp enough, and my hair is way too long. And what about my voice? What about my voice? Do you think I sound? Like the other, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck other boys? Tell me, baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry, babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck other boys? Tell me, baby, what about my masculinity? What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It will be short sighted to try. Is it coming through your mind that I don't care? To be a man.
Ma famille, on communique pas du tout. Genre, c'est très difficile de dire les choses. Je vois un peu les gens qui communiquent ultra facilement avec leurs parents, je les vois un peu comme des ovnis. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'envie et que je considère comme étant quelque chose de plutôt positif. Parce que c'est très bloquant de pas pouvoir communiquer en fait avec ses parents. Je pense que tu peux tout dire si tu as été. T'as grandi dans une famille où la communication est facile, quoi. Et du coup, tu communiques d'autant mieux en tant qu'adulte derrière que t'as pu développer tes skills de communication. Et après, est-ce qu'il faut tout dire ? Moi, je pense que c'est au feeling, quoi. Ça dépend de tes relations avec tes parents. Je pense pas qu'il y ait de règles universelles sur ça, quoi. Et je pense que c'est bien d'avoir... En tout cas, quand t'es jeune, peut-être des adultes de confiance à qui tu peux tout dire. Peut-être pas forcément tes parents, quoi, mais d'avoir ça, quoi, je pense que c'est hyper précieux, quoi. Et je pense qu'il y a des parents qui écoutent mon message, tâchez de d'établir des bonnes bases de communication avec vos enfants, même si vous ne les avez pas eus. Je pense que ça peut se travailler et s'améliorer, et voilà, et ça crée des êtres humains un peu plus fonctionnels, je dirais.
Toi, c'est fichu avec les tiens.
Oh, c'est compliqué, ouais. En tout cas, avec mon père, c'est très... on parle pas, quoi. Ma mère, un peu plus, mais bon, y a plein de trucs. J'aurais jamais dit rien, en fait, je crois. Si on parlait de ça, de la drogue, l'alcool. Des fois, ça peut nourrir des fantasmes. D'ailleurs, je crois que ma mère était persuadée que j'étais alcoolique à un moment, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais voilà. Et du coup, non, ouais, moi, ça marche pas trop. Et je regrette ça, quoi.
Et quand tu vas pas bien, tu leur dis ?
Non. Ils n'ont jamais été au courant de rien, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, J'ai eu des gros problèmes de crise d'angoisse, ce genre de choses. Et ça fait plus de... Ça fait bientôt 10 ans maintenant. Ils n'ont jamais été au courant, quoi.
Ils savent pas que tu vas un pied ?
Non, ah non.
Ok.
Non, pas du tout, quoi. Non, mais vraiment, je te dis, c'est là, le niveau zéro de... Genre, mon père, des fois, on parle un peu foot. C'est le genre de truc un peu sport, c'est le truc qui nous relie, quoi. Mais à part ça, on discute pas, quoi. Après, est-ce qu'il y a des moments où il faut se taire ? C'est plus ça la question, quoi. Genre, est-ce qu'il y a des moments où il faut pas parler ? Ben, ça, je sais pas, par contre. Je me suis dit, si tu vas avoir la paix de temps en temps, ou si tu sens que ça va pas mener à quelque chose de constructif, ou si ça peut être dangereux, peut-être, de parler dans certains espaces, je sais pas. Est-ce que ça peut être vu comme quelque chose de positif de se taire ? Genre, là, non.
Avec ma mère, on se raconte beaucoup de choses. Moi, je l'appelle très très souvent pour lui raconter ma vie. Je lui raconte mes histoires d'amour, mais pas mes histoires de cul. Et je lui raconte pas non plus mes histoires d'alcool. Et ma mère, elle est hyper... pour elle, si je bois une bière à 14h, je suis alcoolique, quoi. Donc, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais... Oui, c'est ça. Mais du coup, non, mais elle a un rapport un peu. Enfin, en tout cas, elle a eu un rapport, donc on a beaucoup parlé de ça en vrai. Moi, je lui racontais pas du tout mes sorties. J'ai eu un moment où je sortais énormément et je buvais beaucoup. Et beaucoup moins maintenant. Mais du coup, ça a créé un peu un décalage. Enfin, je lui racontais pas forcément ça. C'est vrai que je lui. Enfin, on se partage quand même pas mal de choses. Et notamment sur les idées politiques, comment mener nos vies et ce qu'on pense l'une de l'autre, etc. Enfin, on se dit tout ça assez librement, en vrai. Et je me suis rendu compte en perdant mon téléphone que ma mère, c'était un peu quelqu'un qui comptait beaucoup dans mon quotidien. Mais je l'appelle beaucoup, hein, je l'appelle très régulièrement pour lui raconter ma vie. Et on se tient beaucoup quand... Je me rends compte même quand je la vois, c'est comme si je la voyais enfin, on se voyait souvent, quoi, alors qu'on se voit pas souvent. Et mon père, beaucoup moins. Et c'est marrant dans le truc de dire, pas dire. Moi, mon père, je raconte pas beaucoup des détails de ma vie, parce qu'on n'a pas du tout cette relation-là. Mais un truc qui est marrant, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais c'est que lui, pour le coup, est très secret sur sa vie. Et il nous raconte, enfin, mon père est en couple avec une femme depuis, je balance les dossiers, je m'en fous. Il est en couple avec une femme depuis une dizaine d'années, et il n'a jamais, déjà il a mis des années à nous en parler, au bout d'un moment avec la force des choses il nous en a parlé. Et il a toujours refusé de nous présenter sa copine, même de nous montrer des photos, c'est-à-dire que parfois je voyais sur son téléphone des photos. Et en fait, il voulait pas me les montrer. Quoi. Je disais, mais j'aimerais juste savoir qui est ta copine, quoi. Qui est ta compagne, qui est celle avec qui tu pars en voyage à chaque fois. Il nous dit, enfin, au début même, il nous disait même pas son prénom, quoi. Donc, il est très. Enfin, il nous partage pas du tout sa vie privée, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de parents, ils ont une idée de leurs enfants, enfin l'idée qu'ils ont envie d'avoir de leurs enfants, ou ce qu'ils ont envie de voir en leurs enfants, et ils n'ont pas envie de voir quelqu'un qui se fait du mal, qui s'alcoolise, ou qui se drogue, ou... Voilà. Je sens qu'avec mon père, on est... Je pense que ça lui ferait pas plaisir si je lui racontais que je me droguais tous les soirs, tu vois, mais... c'est même pas ce rapport de... Enfin, moi, vis-à-vis de lui, je lui dis... Mais c'est comme si plus, je sais pas, c'est comme une autre strate pour moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une strate de genre de distance qui est créée dans notre relation. On a une relation, mais qui est... C'est comme une autre relation. Il y a mon père. Il y a mon père avec moi, il y a moi avec mon père, il y a moi, tu vois. Alors qu'avec ma mère, c'est plus, il y a moi, ma mère, c'est ma mère, et ma mère avec moi, c'est ma mère sans moi. Et tu vois, on discute de plein de trucs, on discute pas de tout, mais c'est pas le même investissement dans la relation. Je pense qu'il y a même la volonté que y ait pas cet investissement là et qu'il y ait cette distance là. Il aimait beaucoup être seul, quoi, sans nous. C'est un peu triste comme ça, mais non, c'est l'année. Enfin voilà.
Formidable. Wesh la team. Ça fait longtemps que vous êtes là?
Moi, ça arrive souvent... Quand je disais que je bossais à faire face et j'expliquais ce que c'était, du coup, les personnes, elles me disaient genre « Ah, mais du coup, ça veut dire que si on me dit ça, tu sais répondre direct, ça veut dire genre que tu peux sortir de toute situation à tout moment. » J'étais là « Bon, c'est pas tout à fait ça quand même. » Moi, je pense que quand même, il y a forcément des choses qui ont changé en moi par rapport au fait de... Comment dire ? De pas me sentir complètement désarmée et complètement démunie face à des situations. Et moi, en plus, dans des situations où je peux vivre des agressions verbales ou des trucs un peu de sexisme de la part d'hommes, notamment, je sais pas, plus âgés que moi et tout, je vais très vite sourire, être toute rouge, et ça va être ça ma réaction. Et en fait, ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est de continuer à préserver ce sourire-là parce que j'arrive pas à changer, mais de dire avec un grand sourire, en fait, là, je suis désolée, tu m'as coupé la parole, je vais continuer ma phrase, si tu continues. Enfin, et en fait, de réussir aussi à garder ma personnalité et de rester comme je suis, mais de vraiment dire à la personne, en fait, là, c'est pas possible et que c'est pas grave si je le dis en souriant, et d'aussi un peu me calmer par rapport à après la culpabilité de se dire, ah non, mais là, j'ai souri, j'aurais pas dû, alors que le mec, il me faisait chier, machin, là, j'étais trop gentille et tout. Et en fait, y a des situations où j'arrive pas à faire autrement, donc c'est comme ça, quoi. Et après, moi, je pense que ce qui a changé aussi, c'est quand même par rapport aux techniques plutôt d'autodéfense physique, de savoir qu'elles sont possibles, que je peux les utiliser à un moment donné si mon intégrité physique et mentale est en danger. En fait, je peux le faire. Ça, je pense, c'est un truc qui est hyper rassurant. Ça donne aussi de la force pour répondre avec la voix. Enfin, tu vois, de se dire, en fait, si ça dégénère, j'ai ça aussi. Et après, plus des trucs de posture, d'ancrage, de respiration, plus essayer de respirer, tout simplement, quand on est sidéré dans des situations de violence, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, en fait, j'ai l'impression que maintenant, je suis quand même plus bienveillante avec moi-même, en fait. Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y a un endroit où... J'essaye de me dire, tu fais déjà bien comme tu peux, c'est déjà assez dur comme ça. Et du coup, de en plus me rajouter genre un truc de jugement envers moi-même sous prétexte que j'aurais pu mieux faire et tout. Bah, en fait, non, c'est pas vrai. Si j'ai pas fait autrement sur le moment, c'est que je pouvais pas mieux faire. Et c'est pas grave. Et ce que j'ai aussi appris à faire... ces dernières années, c'est de parler après. Enfin, je sais pas comment dire, de parfois, tu sais, tu peux être dans une situation où, genre, on te fait une réflexion qui te plaît pas du tout, mais en fait, sur le coup, t'arrives pas à répondre parce que c'est hyper dur déjà de répondre, tout le monde n'arrive pas à le faire, qu'il y a des gens autour, que évidemment, tu vas passer pour la personne hyper relou, nanana. Et en fait, moi, ce que j'ai appris à faire aussi, c'est de genre une semaine après, un mois après, une heure après, on s'en fiche. De me sentir capable de dire à la personne il y a une semaine t'as dit ça, ça m'a pas plu, le refais pas, c'est pas ok de dire ça parce que telle raison. Et je pense que ça c'est bien aussi de se dire que on n'est pas obligé de toujours répondre sur le tas, et que si on n'y arrive pas, déjà c'est hyper normal et c'est pas grave. Et je pense que si on s'en sent capable, c'est cool de se dire qu'en fait on peut le faire après et que ça aura autant d'impact. Et que, en tout cas, si la personne elle peut l'entendre, elle aura reçu le message et ça, c'est super.
Et sur la réception de la parole, toi, ça
Il n'y a jamais eu des moments où c'était plus... où c'était trop.
J'ai l'impression que... oui, clairement, il y a des moments où recevoir... des... enfin, accueillir des récits de violence, c'est dur, de fait. Je pense qu'il y a des moments où c'est déjà arrivé que des récits de violence puissent voilà, me troubler, me faire monter des émotions, etc. Mais j'ai l'impression que, et c'est notamment grâce à l'autodéfense, que j'ai des outils aussi pour réguler ces émotions-là, pour arriver à les gérer, pour me mettre dans une posture d'écoutante au mieux possible. De me dire, ok, là, je suis là pour écouter. Et c'est tout. Et je pense que je me mets un peu de côté à ce moment-là. Évidemment, y a des moments où c'est pas possible. Enfin, ça a des limites, je pense, de faire ça. Quand parfois, on maîtrise pas les émotions qui nous traversent, quand il y a un récit qui est dur à entendre et tout. En tout cas, ce que j'ai appris en termes d'écoute active, ça a été quelque chose d'hyper important dans ma vie. Ces dernières années, parce que je pense j'ai commencé à vraiment voir la différence aussi quand moi j'avais besoin de me livrer, de sentir quand une personne est dans une posture d'écoute active ou pas, et que en fait l'écoute active c'est vraiment quelque chose qui permet de libérer la parole des personnes qui en ont besoin. Ça permet de légitimer. Ça permet de déculpabiliser aussi, ça permet de replacer la honte autre part. Et je pense que il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément d'espace d'écoute, et en fait de se dire ok, là la personne elle a besoin d'être écoutée, et je vais avoir des outils, des clés en tête pour faire tout mon possible pour qu'elle se sente écoutée. Je pense que ça laisse la place aussi à nommer les choses, ça donne la place aussi à des prises de conscience qui sont hyper précieuses. Voilà.
Tic, tic.
Alors, je vais vous lire un extrait de Sister Outsider de Audre Lorde. Le passage a pour titre « Transformer le silence en parole et en acte ». Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé, et ce même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. Parce que parler m'est bénéfique d'abord et avant tout. Je suis ici, debout, comme poète noire lesbienne, et tout cela prend un sens encore plus fort parce que je suis toujours en vie, alors que j'ai bien failli ne plus l'être. Il y a moins de 2 mois de cela, 2 médecins, une femme et un homme, m'ont annoncé que je devais me faire opérer du sein, qu'il y avait 60 à 80% de risque pour que la tumeur soit maligne. Entre cette nouvelle assénée et l'intervention chirurgicale, une attente de 3 semaines s'est écoulée. Période d'agonie pendant laquelle j'ai dû réenvisager ma vie entière. L'opération a eu lieu, la tumeur était bénigne. Mais pendant ces 3 semaines, j'ai été forcée de me regarder, de regarder ma vie à la lumière crue de l'urgence, expérience dont je suis ressortie secouée, mais bien plus forte. De nombreuses femmes, certaines d'entre vous aujourd'hui ici, ont fait face à ce genre de situation. Ce que j'ai ressenti au cours de cette période m'a aidée à élucider bien des questions sur ce qui peut transformer le silence en parole et en acte. Ainsi confrontée de force à l'éventualité de ma mort, à ce que je désirais et voulais de ma vie, aussi courte soit-elle, priorité et omission me sont apparues violemment, sous une lumière implacable, et ce que j'ai le plus regretté, ce sont mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur? Dans mon esprit, poser des questions ou parler signifiait souffrance ou mort. Pourtant, nous souffrons toutes, de bien des façons, tout le temps. Et la souffrance se transforme ou s'achève. La mort, en revanche, c'est le silence final. Et elle pourrait ne pas tarder à présent.
Peu importe si je n'ai pas dit ce qu'il fallait, si je me suis trahie par toutes sortes de petits silences, remettant ma parole à plus tard ou comptant sur une autre pour parler à ma place. J'ai alors commencé à discerner en moi une source de puissance qui vient de cette connaissance. Bien qu'il soit préférable de ne pas avoir peur, savoir relativiser la peur me donne une très grande force. J'allais mourir, tôt ou tard, que j'aie pris la parole ou non. Mes silences ne m'avaient pas protégé. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis rentrée en contact avec d'autres femmes, et ensemble, nous avons recherché des paroles s'accordant au monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. Et ce sont l'intérêt et le soutien de toutes ces femmes qui m'ont donné la force et permis de questionner les fondements mêmes de ma vie. Les femmes qui m'ont soutenue pendant cette période étaient noires et blanches, vieilles et jeunes, lesbiennes, bisexuelles et hétérosexuelles, et nous avons toutes pris part à cette guerre contre les tyrannies du silence. Sans la force et l'attention de toutes ces femmes, je n'aurais pas pu survivre indemne. Pendant ces semaines de peur intense, j'ai soudain compris, dans la guerre, nous combattons les forces de la mort, plus ou moins subtiles, dont nous sommes conscientes ou non, que je ne suis pas seulement une victime. Je suis aussi une guerrière. Quels sont les mots qui vous manquent encore? Qu'avez-vous besoin de dire? Quelles sont les tyrannies que vous avalez chaque jour et que vous essayez de faire vôtre jusqu'à vous en rendre malade et en crever, en silence encore? Peut-être que pour certaines d'entre vous, ici aujourd'hui, je suis le visage d'une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi, une poète guerrière noire qui fait son boulot. Venue vous demander, et vous, est-ce que vous le faites le vôtre? Et bien sûr, j'ai peur, car transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. Quand je lui ai parlé de notre sujet de discussion et de mes difficultés, ma fille m'a dit « Raconte-leur qu'on n'est jamais une personne à part entière si on reste silencieuse. Parce qu'il y a toujours cette petite chose en nous qui veut prendre la parole. Et si on continue à l'ignorer, cette petite chose devient de plus en plus fébrile, de plus en plus en colère. Et si on ne prend pas la parole, un jour cette petite chose finira par exploser et nous mettre son poing dans la figure. » La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque, ou encore peur d'être repéré, peur du défi, de l'anéantissement. Mais par-dessus tout, je crois, nous craignons la visibilité. Cette visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre pleinement. Dans ce pays où la différence raciale, quand elle n'est pas dite, crée une distorsion permanente du regard, les femmes noires ont été d'une part toujours extrêmement visibles, d'autre part rendues invisibles par l'effet de dépersonnalisation inhérente au racisme. Même au sein du mouvement des femmes, nous avons dû et devons encore nous battre pour cette visibilité de notre négritude, qui nous rend d'ailleurs extrêmement vulnérables. Car pour survivre dans la bouche de ce dragon appelé Amérique, nous avons dû apprendre cette première et vitale leçon. Nous n'étions pas censés survivre. Pas en tant qu'être humain. Et la plupart d'entre nous non plus, que vous soyez noir ou non. Or, cette visibilité qui nous rend tellement vulnérables est la source de notre plus grande force. Car le système essaiera de nous réduire en poussière de toute façon, que vous parliez ou non. Nous pouvons nous asseoir dans notre coin muette, comme des tombes, pendant qu'on nous massacre, nous et nos sœurs, pendant qu'on défigure et qu'on détruit nos enfants, qu'on empoisonne notre terre. Nous pouvons nous terrer dans nos abris muettes, comme des carpes, mais nous n'en aurons pas moins peur. Pour transformer le silence en parole et en acte, il est fondamental que chacune de nous établisse et analyse sa place dans cette transformation et reconnaisse le rôle vital qu'elle joue. Pour celles qui écrivent, Il est nécessaire d'examiner minutieusement non seulement la véracité de ce que nous disons, mais encore la véracité du langage que nous utilisons. Pour d'autres, il s'agira de partager et aussi de transmettre ces paroles qui font sens pour nous. Mais plus que tout, il est primordial pour nous toutes de montrer l'exemple en vivant et en nommant ces vérités auxquelles nous croyons et que nous détenons au-delà de notre entendement. C'est seulement ainsi que nous pourrons survivre en prenant part à ce processus vital, créatif et continu qui s'appelle grandir. Et cela ne se fait jamais sans peur. Peur de la visibilité, de la lumière implacable de l'examen. Peut-être peur d'être jugé, peur de la souffrance, peur de la mort. Mais nous avons déjà traversé tout cela, en silence, excepté la mort. Et quand les paroles des femmes crient pour être entendues, nous devons chacune prendre la responsabilité de chercher ces paroles, de les lire, de les partager et d'en saisir la pertinence pour nos vies. Nous ne devons pas nous cacher derrière les simulacres de division qu'on nous a imposés et que nous faisons si souvent nôtres. Du genre, je ne peux vraiment pas enseigner la littérature des femmes noires, leur expérience est si éloignée de la mienne. Pourtant, depuis combien d'années enseignez-vous Platon, Shakespeare et Proust? Ou bien, c'est une femme blanche, que peut-elle vraiment avoir à me dire? Ou, c'est une lesbienne, que va en passer mon mari ou mon patron? Ou encore, cette femme parle de ses fils et je n'ai pas d'enfant. Et toutes les multiples façons que nous avons de nous priver de nous-mêmes et des autres. Nous pouvons apprendre à travailler, à parler malgré la peur, de la même façon que nous avons appris à travailler, à parler malgré la fatigue. Car nous avons été socialisés pour respecter la peur bien plus que nos propres besoins de parole et de définition. Et à force d'attendre en silence le moment privilégié où la peur ne serait plus, le poids de ce silence finira par nous écraser. Le fait que nous soyons ici, ensemble, et que je prononce ces paroles est une tentative de briser ce silence et de construire des ponts entre nos différences. Car ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c'est le silence. Et tant de silences doivent être brisés.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu Les Menstruels, collectif de correspondance à voix multiple qu'on retrouve tous les deux mois dans Gymnastique Sonore. Vous avez entendu l'épisode 78, Parler ou se taire. Pour retrouver les émissions des menstruels et les archives de Gymnastique Sonore, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.